Bonjour, bienvenue pour cette prédication du dimanche 23 avril 2017. C'est le pasteur de l'Église protestante unie de Port-Royal, quartier latin, qui vous parle. Je vais lire d'abord un des textes de ce jour, tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et je vais compléter cette lecture toujours dans le même livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, pour lire les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc nous voici dans le livre des Actes des Apôtres qui a été probablement rédigé et voire publié autour des années 70-80 de notre ère, c'est-à-dire assez longtemps après la mort de Jésus, et donc ce livre raconte les premiers moments de vie, les faits et gestes des premiers croyants au Christ, d'abord à Jérusalem, et ce livre entier raconte une histoire de cette expansion de la bonne nouvelle à travers le pays de Palestine et puis ailleurs dans les cités païennes. Et là, nous avons lu, j'ai lu deux textes particulièrement connus, pour les connaisseurs bien sûr, qui révèle un mode de comportement de ces premières communautés, de cette première communauté à Jérusalem. Alors, que penser ? La première audition de ce texte peut-être peut faire penser à une utopie. Une utopie, pour les uns, c'est ce qui peut arriver, c'est ce vers quoi on tend, et pour les autres, c'est un lieu complètement alternatif, complètement impossible. Utopique signifie à la fois une espérance et à la fois une impossibilité. Donc là, cela raconte, en fait, ni l'un ni l'autre, cela raconte peut-être avec une certaine forme d'emphase, je ne parle pas particulièrement de ce texte, mais je parle du principe même de construction de ce livre des Actes des Apôtres, qui est, comment dire, qui magnifie la première communauté des croyants au Christ. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est une forme très étonnante de mise en commun, une forme de radicalité évangélique, où la liberté de croyant touchait l'égalité de tous, titre de quoi ? Au titre probablement d'une égalité des personnes devant Dieu et une égalité des personnes pouvant recevoir, être au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors, certains ont utilisé ce texte pour vanter un courant politique qui s'appelle évidemment le communisme, puisque le mot « commun » est dans les deux textes que nous avons lus. Mais, comment dire ? Et il ferait de ces récits une loi, un principe d'application de ce que devrait être la communauté chrétienne aujourd'hui, par exemple. Cela est possible, mais en tout cas, ce n'était pas l'intention du texte, qui est visiblement une volonté de, effectivement, de laisser les gens trouver une forme d'inspiration, mais qui, quand même, a une fonction de description de ce qui se passait, ou peut-être de ce qu'on aurait aimé qu'il se passe. Mais en tout cas, ça n'a pas valeur de loi. Ce n'est pas un texte de loi qui dirait il faut faire ci, il faut faire ça. Non, voilà, voilà l'exemple, voilà le témoignage. Les premiers croyants au Christ faisaient beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Mais ça ressemble aussi au démarrage de l'évangile avec Jésus, hein. Ils laissaient tout derrière eux, leur famille, leur métier. Alors, ce n'est pas une façon de vendre, c'était une façon de laisser, mais ça revient un peu au même. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils vivaient une vie communautaire. D'ailleurs, ce texte a inspiré évidemment beaucoup le monachisme chrétien. Comment dire, grandissants. Ils trouvaient grâce à tout le peuple à cause de leur témoignage. Ils étaient, comment dire, habité par cet esprit, peut-être de fin des temps, mais en tous les cas, de faire correspondre leur idéal, c'est-à-dire devant Dieu, eh bien, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, ni de gens de diverses conditions, il n'y a que des êtres humains devant lui qui sont à égalité, des frères et des sœurs à égalité. Et pour cela, donc, ils avaient débarrassé de leur communauté l'indigence, c'est-à-dire que ce n'était pas une église dont les riches aidaient les pauvres, c'était pas ça du tout, dans cette forme de dépendance qui en reste une. C'était une église où il n'y avait plus ni riches ni pauvres, et c'était ça qui était intéressant. Alors, le mot commun est dans ce texte, et en grec ça se dit koinos, qui est un mot très important. Mais ce mot en grec signifie beaucoup de choses, comme en français d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Signifie commun, mais si je vous dis ça, je ne vous dis pas vraiment ce que ça signifie, parce que commun en français peut signifier beaucoup de choses. Par exemple, une chose commune, c'est pas forcément quelque chose de très recommandable, ou alors. Quand on dit, oh là là, ça c'est pas commun, ça veut dire que c'est original, c'est singulier. Ça signifie aussi commun, c'est-à-dire partagé. C'est quelque chose qui est au milieu de personnes, le contraire d'une certaine manière de ce qui sépare, de ce qui réunit. C'est le bien commun, c'est par exemple, une maison qu'un couple achète et c'est leur maison, à eux deux, de façon indissociable. Sauf s'il y a effectivement une séparation. Donc là, il n'y a pas de séparation, il y a le mot commun. Mais aussi, en grec et pour les Judéens, les Juifs de cette époque, le mot commun avait un autre sens et il signifiait aussi profane. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté ce qui était commun, ce qui était profane. Et on pourrait aller aussi dans la définition de ce mot, on pourrait aller vers même ce qui est souillé, en comparaison de ce qui n'est pas profane, c'est-à-dire que ce qui est sacré, ce qui est, comment dire, réservé, ce qui est saint, S-A-I-N-T, qui est pur par opposition au souillé. Donc c'est intéressant que la première communauté des croyants au Christ avait pour règle ce qui apparaissait comme finalement commun ou impur ou souillé ou profane chez tous les religieux de tous les bords d'ailleurs, pas uniquement les prêtres de Jérusalem, mais tout le monde. Ces premiers croyants au Christ allaient au temple, tels qu'ils sont décrits, même si le livre des Actes date fort probablement après la destruction du temple, cela rend compte des moments où le temple était encore là. Ils allaient au temple et ils partageaient le pain à la maison. C'est de là qu'est née cette fameuse communion. qui fait partie de ce commun aussi. Donc voilà, d'abord la première chose qu'il faut noter, c'est que les premières croyances s'établissent dans le profane. Profane, ça veut dire ce qui est devant le temple. Ils s'établissent là. Non pas qu'ils soient à l'extérieur, mais ils définissent le nouveau terrain religieux comme un terrain profane, c'est-à-dire que finalement, ils relativisent la notion de sacré, ou alors ils disent que c'est dans cette profanité, dans ce commun, dans ces lieux communs, que la réalité, comment dire, la réalité divine existe, qu'elle se réalise, qu'elle se vit. Donc, là, c'est pour le mot commun. Il mettait tout en commun. Alors, face à ça, sachant que ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas une prescription, cela dit, il y a beaucoup de prescriptions dans la Bible qui ne sont pas du tout appliquées dans les églises chrétiennes, ou des phrases de Jésus, vendez tous vos biens, personne ne le fait, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées de l'Évangile. Donc là, plus ce n'est pas une recommandation, c'est une description. C'est une source éventuelle d'inspiration. Mais cela dit, il y a quand même de quoi observer, puisque aujourd'hui, aucune église chrétienne, sinon quelques communautés monastiques, n'applique ça à la lettre. Mais on pourrait même qualifier de secte des communautés qui obligeraient. Là, il ne s'agit pas d'obligation, mais qui obligerait les membres à effectivement vendre tous les biens pour les mettre dans la communauté. Donc nous, effectivement, Église protestante classique, protestante unie de France, et nous aussi, Église protestante unie de Port-Royal, quartier latin, dans le 5e et dans le 13e arrondissement de Paris, nous ne mettons pas tout en commun, et nous pensons que c'est normal de ne pas le faire. Puisque personne ne le ferait. Voilà. Donc ça, c'est important de dire que nous ne sommes pas obligés de le faire, mais en même temps, comment dire, nous ne le faisons pas. Alors, à quel degré d'interpellation est ce texte? Alors d'abord, je veux préciser que si nous ne le faisons pas, et que personne ne le fait, il y a quand même de la mise en commun. Pas de tout, mais de certaines choses. Bien que ce ne soit pas obligatoire, des personnes donnent au moment de l'offrande, au moment où elles veulent, pour le bien de l'Église. Donc elles donnent de l'argent, prononçons le mot, elles donnent de l'argent d'une façon absolument libre, absolument non fixée. Il faut que ce soit un don libre, mais en donnant de l'argent, elles donnent une partie quand même de leur possession. Elles se dépossèdent d'une partie. Alors certains disent que donner du temps ou de l'énergie d'action, c'est la même chose que donner de l'argent. Voilà. Bon, la question peut se poser à quelqu'un qui n'a pas d'argent, évidemment, mais les deux sont évidemment très bien, mais ce n'est pas la même chose. Donner son temps, sa forme d'action, ça en gros ne vous dépossède de rien puisque vous êtes en train de marcher et vous continuez à marcher, mais vous faites un petit détour, mais c'est encore votre décision est totalement prise par ça. C'est encore votre route. Vous ne vous enlevez rien d'une certaine manière. Tandis que donner de l'argent, c'est exactement vous enlever quelque chose que vous avez. C'est une dépossession. Quand on donne du temps, on ne se dépossède pas de son temps. Sauf si vraiment on a envie de faire autre chose, ou qu'on se sent vraiment obligé ou culpabilisé de plier les enveloppes dans une paroisse, ou je ne sais quoi, ou faire un service de permanence, ou être assistant pour préparer le culte, ou je ne sais quoi. On le fait gracieusement, c'est effectivement du don, mais je dis simplement que ce n'est pas de la même, comment dire, c'est les deux ne sont pas exactement dans la même sphère. La dépossession, elle, de l'argent est quelque chose qui est effectivement une qui qui peut s'apparenter, volontaire, hein, bien sûr, je tiens à le préciser, et quelque chose qui peut s'apparenter à quelque chose qui est un résidu de ce temps utopique des premières communautés des croyants au Christ. Mais comment dire, certes, c'est moins totalisant que ce qui est écrit dans nos textes, mais c'est quand même quelque chose qui s'apparente. Un fil peut être dressé entre ces communautés et l'acte de donner, là je dis bien, de l'argent, afin de quoi? Afin de mettre cela au service de l'Église dans laquelle on est et dont on veut activer le témoignage. Bon, alors, mais ce qui est à noter, c'est que dans un cas, dans ces premières... Ces premiers temps de l'Église, les gens ne faisaient pas que donner leurs biens, enfin, l'argent qui était lié à la vente de leurs biens, ils recevaient aussi. Ils recevaient autre chose. Les pauvres qui étaient dans cette assemblée recevaient quelque chose, et même les riches qui donnaient recevaient aussi quelque chose dans ces communautés, de la même façon que le donateur aujourd'hui reçoit en même temps qu'il donne. Donc, quand quelqu'un donne, il faut. Parfois, on est obligé de remercier, enfin, en tant que pasteur, bien que ce n'est pas à nous qu'on donne, on est obligé de remercier les gens qui font des dons, mais en même temps, ils devraient se remercier eux-mêmes. Comment dire, de recevoir et de donner. Enfin, tout le monde reçoit et tout le monde donne. Quand on donne, on reçoit. Et dans l'Église, c'est particulièrement logique, puisqu'on bénéficie du service. Et que l'Église procure. On y est. On l'a fait. Voilà. Voilà. Mais il faut aller un peu plus loin. Et ça va être la dernière partie de mon message. Il faut se rappeler ce que c'est que l'Église. L'Église, ça vient d'un mot grec aussi qui signifie assemblée. Mais à cause de la première particule qui est ex au départ, ecclesia, ce ex, ça signifie, comme dans beaucoup de mots français, ça signifie un mouvement de sortie. Donc c'est l'Église, c'est un assemblement de gens c'est une assemblée de gens qui sont sortis de quelque chose au travers d'un appel. Ils sont appelés. C'est être sorti par un appel, venir faire un mouvement par un appel. Une convocation. Voilà. Donc ça, l'Église, c'est des gens qui sont appelés. Alors des gens, qui ça? Ben, n'importe qui. C'est ça, c'est là où on va voir quelque chose au niveau du comment. C'est n'importe qui est appelé. Et ils viennent de façon individuelle, globalement. Ils viennent de n'importe où. Et là, l'Évangile naissant... Et clair là-dessus, c'est à Jérusalem, c'est à Rome, c'est à Corinthe, c'est partout. On peut être n'importe quoi, n'importe quelle forme de croyance, on peut être appelé et donc aller vers le fait de former l'assemblée, l'ecclésia, à un moment donné, et donc se retrouver avec d'autres appelés, je dirais, complètement, avec des gens qui n'avaient rien, n'ont rien, pardon, n'ont rien en commun avec vous. Ils ont été appelés, vous aussi, mais vous n'avez rien de commun entre eux. Réfléchissez à ça, parce que si vous avez la chance de pouvoir participer à une communion dans une église protestante ou catholique, évidemment, vous pouvez vivre cela intérieurement et fermer les yeux, mais beaucoup de gens ouvrent les yeux, à juste titre, moi-même, j'ouvre les yeux. Il m'arrive de contempler l'assemblée qui se forme autour de la table. Et de temps en temps, eh bien, je m'en rends compte, et je me le rends volontairement compte, que je communie avec des gens qui n'ont rien en commun avec moi. Toute affection dite par ailleurs, ils ne viennent peut-être pas du même du même endroit, ils ne parlent peut-être pas la même langue, ils n'ont pas le même âge, ils ne sont pas dans la même condition sociale, ils ne sont pas des mêmes origines, ils n'ont pas comment dire, la même façon d'appréhender les choses, ils n'ont pas les mêmes options politiques. Parfois, ils n'ont radicalement pas les mêmes options politiques, s'ils en ont. Ils n'ont rien en commun et pourtant, nous sommes là en train de communier. Et seule l'Église produit ce type de phénomène. Donc l'assemblée, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont rien en commun entre eux, qui individuellement, personnellement, sont appelés pour former, a priori, une assemblée hétéroclite. Alors, là, on peut s'étonner. Et c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter de penser. Pourquoi? Parce que l'assemblée, le phénomène d'assemblement, c'est un phénomène extrêmement. C'est un des phénomènes de base de l'humanité. Les humains s'assemblent depuis toujours. Ils sont toujours assemblés. C'est comment dire, le principe même de l'humanité, c'est l'assemblement. Mais on pourrait dire que l'Église fait partie et hérite de ce phénomène-là qui prend de diverses formes. Mais il faut rappeler que l'Église, c'est une assemblée qui va vers quelque chose. Et la personne appelée individuellement, elle ne sait pas trop pourquoi. Sachant que il n'y a pas de comment, à part le fait d'être appelé pour venir, il n'y a aucun point commun spécial entre les personnes. Il n'y a pas de préalable, je veux dire, par exemple, un préalable de croyance, un préalable de participation aux mêmes formules. Certes, il y a des codes qui permettent de se parler, c'est quand même pas des extraterrestres, parce que nous sommes humains, et en général, nous vivons dans le même pays, puisque nous nous assemblons à un endroit. Mais, priori, il n'y a rien de commun. Alors, c'est quoi? Alors, disons d'abord ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une confrérie. Ce n'est pas une association, même si l'État, comment dire, la loi nous oblige, pour les églises protestantes en tous les cas, à se figurer en tant qu'assemblée associative. Loi 1905. Ce n'est pas une association d'amateurs de la même chose. Ce n'est pas une association où l'on partagerait les mêmes formules, les mêmes codes, où on aimerait ou détesterait d'ailleurs les mêmes choses, où on s'aimerait ensemble pour détester les mêmes choses. Non, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas une assemblée déjà formée en fait. C'est un assemblement vers quelque chose qui n'est pas encore là au moment même de l'assemblement. Et à quoi elle sert, cette assemblée? Cette assemblée, Église, sert à donner le sens de ce phénomène qui est l'assemblement, en fait. La plupart des assemblées, elles peuvent dégénérer jusqu'à être une meute. Il y a des assemblées nocives, des assemblées de tous les côtés, ou des assemblées inutiles, ou des assemblées, comme je le dis, de gens qui se font des effets de miroir entre eux. Des assemblées de gens qui voient l'autre qui s'assemble avec eux comme un miroir de ce qu'ils sont. Non, là, c'est pas ça du tout. C'est hétéroclite, par définition. De la même façon, enfin, on peut dire ça, puisque le christianisme s'est développé dans cette façon hétéroclite de procéder. C'est des juifs, des païens, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, donc qui vivaient dans des cases très différentes, qui s'assemblaient à un moment donné, suite à leur appel. Alors, l'objectif, enfin, le but de ce mouvement, la trajectoire de ce mouvement est de dévoiler le bien commun. Je ne dis pas de le créer. Il ne s'agit pas de créer un bien commun ou de considérer que l'Église est ce bien commun. Ça, c'est une erreur tragique, une erreur, une anti, comment dire, de l'anti-évangile. Ça referme ce qui n'est qu'un, ce qui ne doit être qu'un mouvement vers une action qui est le dévoilement du bien commun. Ensemble, individus disparates, hétéroclites, appelés, ça nous l'avons en commun, mais parfois nous sommes appelés de façon inconsciente pour nous trouver là, à ce moment-là, ou peut-être nous avons été appelés réellement par quelqu'un, invité à l'occasion d'un mariage ou je ne sais quoi. À ce moment-là, nous faisons valoir, nous découvrons, dans le sens révélé, enlever le voile qui était posé sur le bien commun, que nous ignorions qu'il existait et qu'il était le centre réel de toute forme de vie et de réalité. Je n'ai pas envie de le nommer là, parce que je ne suis pas là pour dire le nom qui était interdit de dire dans la plus pure de la religion juive, et même dans les premiers temps du christianisme. Il ne faut pas abuser de ce nom, vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est un interdit biblique. Mais, en participant à cette assemblée, on fait vivre ce bien commun. Et nous prenons des forces pour aller vers les autres et les appeler aussi à venir participer à cette tâche de dévoilement du bien commun. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous avons fait ça? Eh bien, tout simplement, nous nous réjouissons. Nous en profitons. Nous n'étions qu'une assemblée, une assemblée ordinaire, comme il y a tant d'assemblées qui font tout et n'importe quoi, qui font de la escrime, de la philatélie, qui font de la politique, qui font des tas de choses. Mais en général, qui procèdent par effet de miroir, qui procèdent par le fait d'être les mêmes. Là, il s'agit d'aller vers le bien commun, ce profane, qui ne peut être créé que par ce dévoilement ne peut être créé que par des personnes qui ont été appelées à former cette église, cette assemblée. Comme je disais, nous en profitons, nous sortons de la superficialité des choses, et nous découvrons dans nos évangiles qu'un bain, ça devient le baptême, qu'un repas du soir, ça devient une communion. Nous découvrons que du vent qui souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Nous découvrons que la confiance qui est partagée entre nous, avant qu'elle ne soit spoliée, s'appelle la foi. Et cette foi permet justement que cette confiance naturelle, ce bien humain basique, la foi, c'est-à-dire la reconnaissance de l'origine de cette confiance, rend cette confiance difficilement pourrissable. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, si les premiers croyants au Christ mettaient tout en commun, c'est pour procéder en métaphore de ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire le vrai bien commun. C'est ce qu'ils avaient entre eux. Et c'est ça qui doit nous faire penser. C'est ça qu'on peut éventuellement interpréter en lisant le texte des apôtres qui nous dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ben effectivement, quand on dévoile ensemble le bien commun, on a tout en commun. Et il ne reste plus qu'à annoncer ailleurs cette bonne nouvelle.